Lettre de Jeanne Méry à son cousin Jean. Mon cher Jean, voilà tantôt 3 mois de passé depuis ton départ, et j'attends toujours pour que tu me parles de ton retour. Moi, j'ai bien foi en toi, vois-tu, et je sais que tu n'es pas pour me tromper, mais ça n'empêche pas que le temps me dure. Il y a des fois, la nuit, où le chagrin me prend, et il me passe toutes sortes d'idées. Avec ça, mes parents me disent que si tu avais bien voulu, tu aurais pu avoir un congé pour venir faire un tour chez nous. Je crois bien aussi qu'il y en a ici au village qui leur montent la tête. Mais c'est vrai pourtant que notre cousin Pierre est revenu 2 fois au pays, lui, pendant le temps qu'il était soldat. Il y en a qui font courir le bruit que je vais épouser le grand Suireau. Crois-tu ? Quelle drôle de chose d'épouser ce grand Benet qui fait le monsieur. Je laisse dire, car je sais qu'il n'y a rien dans le monde pour moi comme mon cher Jean. Tu peux être bien tranquille, il n'y a pas de danger qui m'attrape à aller au bal. Ça m'est égal qu'ils me disent que je fais des manières. Pour danser avec Suireau ou ce gros nigaud de Toinon ou d'autres comme ça, oh non, vraiment. Je m'assieds bien tranquille le soir sur la barre de chez Rose, devant la porte, et là je pense et je repense de mon cher Jean, qui vaut bien mieux que tous les autres, et pour sûr, je ne m'ennuie pas quand je pense à lui. Je te remercie de ton portrait. C'est bien toi, quoi qu'on dise ici que tu as joliment changé. Moi, je trouve que c'est bien toujours la même figure. Seulement que tu ne regardes pas le monde tout à fait de la même manière. Je l'ai mis sur la grande cheminée et tout alentour mon rameau de Pâques, ce qui fait que quand j'entre dans la chambre, c'est le premier qui me regarde. Mon cher Jean, je n'ai pas encore osé porter ce beau bracelet fait par les nègres que tu m'as envoyé. De peur d'Olivette et de Rose, elles trouvent déjà que je fais la demoiselle. Oh, ça serait bien pire. Quand tu seras là et que nous serons mariés, ce sera autre chose. Je porterai aussi la belle chaîne à jaseron de la tante Tournelle et sa chaîne de ciseaux. Viens seulement, car vois-tu, je languis bien de ne pas te voir. J'ai l'air de rire quelquefois avec les autres, mais après, le chagrin me monte si fort que je me cache pour pleurer. Adieu, mon cher Jean, je t'embrasse de tout mon cœur, Jeanne Méry. Les mains de Fatou, qui étaient d'un bout noir au dehors, avaient le dedans rose. Longtemps cela avait fait peur au spahi. Il n'aimait pas voir le dedans des mains de Fatou, qui lui causait, malgré lui, une vilaine impression froide de pattes de singe. Ses mains étaient pourtant petites, délicates et reliées au bras rond par un poignet très fin. Mais cette décoloration intérieure, ses doigts teintés, mi-partis, avait quelque chose de pas humain qui était effrayant. Cependant, et certaines intonations d'un fausset étrange qui lui échappaient quelquefois, quand elle était très animée, cela et certaines poses, certains gestes inquiétants, cela rappelait de mystérieuses ressemblances qui troublaient l'imagination. À la longue, pourtant, Jean s'y était habitué et ne s'en préoccupait plus. Dans les moments où Fatou lui semblait gentil et où il l'aimait encore, il l'appelait même en riant d'un bizarre nom Yolof qui signifiait « petite fille singe ». Elle était très mortifiée, Fatou, de ce nom d'amitié, et prenait alors des airs posés et des mines sérieuses qui amusaient le spahi. Un jour, où il faisait exceptionnellement beau ce jour-là, un temps presque doux, avec un ciel très pur, un jour, Fritz Müller, qui se rendait en visite chez Jean, était monté sans bruit et s'était arrêté sur le seuil. Là, il se divertit beaucoup en assistant de la porte à la scène suivante. Jean, souriant d'un bon sourire d'enfant qui s'amuse, paraissait examiner Fatou avec une attention extrême, lui étirant les bras, la retournant, l'inspectant sans rien dire sur toutes ses faces. Et puis tout à coup, d'un air convaincu, il exprimait ainsi ses conclusions. « Ah, mais tout à fait, même chose comme singe !» Et Fatou, très vexé, Ah, Diane, toi, il n'y a pas à dire, mon blanc. D'abord, sage, lui, il n'y a pas connaît manière pour parler, et moi, connais très bien. Alors, Fritz Müller partit d'un grand éclat de rire, et puis Jean aussi, en voyant surtout l'air digne et comme il faut que Fatou Gueye s'efforça de prendre, afin de protester par son maintien contre ses conclusions impolies. Oh, très joli petit singe, dans tous les cas, dit Müller, qui admirait beaucoup la beauté de Fatou. Il avait longtemps habité le pays noir et s'y connaissait en belle fille du Soudan. Très joli petit singe. Si tous ceux des bois de Galam étaient pareils, on pourrait encore s'acclimater dans ce pays maudit. Il n'a sûrement jamais reçu la visite du bon Dieu. Une salle blanche, toute ouverte au vent de la nuit, deux lampes suspendues que de gros éphémères affolés par la flamme viennent battre de leurs ailes, une tablée bruyante d'hommes habillés de rouge, et des maritornes très noires s'empressant alentour, un grand souper de spahis. Le jour, il y a eu fête à Saint-Louis. Fête militaire, revue au quartier, course de chevaux du désert, course de chameaux, course de bœufs montés et course de pirogues. Tout le programme habituel des réjouissances d'une petite ville provinciale, avec en plus la note étrange apportée par la Nubie. Par les rues, on a vu circuler en uniforme tous les hommes valides de la garnison, marins, spahis ou tirailleurs. On a vu des mulâtres et des mulâtresses en habit des grands jours, les vieilles signardes du Sénégal, métisses de distinction, raides et dignes avec leurs hautes coiffures de foulard madras et leurs deux papillotes en tire-bouchon à la mode de 1820. Et les jeunes signardes en toilette de notre époque, drôles et fanés, sentant la côte d'Afrique. Puis deux ou trois femmes blanches en toilette fraîche, et derrière elles, comme repoussoir, la foule nègre couverte de gris-gris et d'ornements sauvages. Tout Gnadendar en tenue de fête. Tout ce que Saint-Louis peut déployer d'animation et de vie, tout ce que la vieille colonie peut mettre du monde dans ses rues mortes, tout cela dehors pour un jour et prêt à rentrer demain dans l'assoupissement de ces maisons silencieuses enveloppées d'un suaire uniforme de chaux blanche. Et les spahis, qui ont par ordre paradé toute la journée sur la place du gouvernement, sont très réveillés et très excités par ce mouvement insolite. Ils fêtent ce soir des nominations et des médailles qui leur sont arrivées par le dernier courrier de France. Et Jean, qui d'ordinaire fait un peu bande à part, assiste avec eux à ce souper qui est un repas de corps. Elles ont eu fort à faire, les marinottes noires, pour servir les spahis. Mais non pas qu'ils aient mangé beaucoup, mais ils ont bu effroyablement et ils sont tous gris. Un grand nombre de toasts ont été portés, beaucoup de propos extravagants de naïveté ou de cynisme ont été tenus. Beaucoup d'esprit a été dépensé, d'un esprit de spahis très généralement cru, à la fois très sceptique et très enfantin. Beaucoup de chansons singulières affreusement risquées, venues d'on ne sait d'où, de l'Algérie, de l'Inde ou d'ailleurs, ont été chantées. Les unes en soli, comiquement discret, les autres en chœur terrible, accompagnés de bruits de verre et de coups de poing à casser les tables. On a débité de vieilles facéties, ingénues et rassasiées, qui ont excité des rires jeunes et joyeux. On a aussi lancé des mots capables de faire monter le rouge au front du diable même. Et tout à coup, voilà qu'un spahi, au milieu de ce débordement d'insanité tapageuse, lève un verre de champagne et porte ce toast inattendu à ceux qui sont tombés à Mekki et à Bobdiara. Bien en bizarre ce toast que l'auteur de ce récit n'a pas inventé. Bien imprévu cette santé portée. Hommage de souvenir ou plaisanterie sacrilège à l'adresse de ceux qui sont morts? Il était très ivre, le spahi qui avait porté ce toast funèbre, et son œil flottant était sombre. Hélas, dans quelques années, qui s'en souviendra de ceux qui sont tombés dans la déroute à Bob Diara et à Mekke, et dont les os ont déjà blanchi sur le sable du désert? Les gens de Saint-Louis qui les ont vus partir ont retenu leur nom peut-être, mais dans quelques années, qui s'en souviendra? Et qui pourra les redire encore? Et les verres furent vidés à la mémoire de ceux qui sont tombés à Mekke, à Bob Diara. Mais ce toast étrange avait amené pour un instant un grand silence d'étonnement et jeté comme un crêpe noir sur le dîner de corps d'espahis. Jean, surtout, dont les yeux s'étaient animés au contact de cette gaieté des autres, et qui ce soir-là, par hasard, riait de tout son cœur, Jean redevint rêveur et grave, sans trop pouvoir démêler pourquoi, tombé là-bas dans le désert. Il n'était pas maître de cela, mais cette image venait de le glacer comme un son de la voix de chacal. Elle avait fait courir un frisson dans sa chair. Bien enfant encore, le pauvre Jean, pas assez aguerri, pas assez soldat. Il était très brave pourtant. Il n'avait pas peur, pas du tout peur de se battre. Mais quand on parlait de Boubacar Ségou, qui rôdait alors avec son armée presque aux portes de Saint-Louis, dans le Cayor, il sentait son cœur bondir. Il en rêvait quelquefois. Il lui semblait que cela lui ferait du bien et le réveillerait d'aller enfin voir le feu, même le feu contre un roi nègre. Par moments, il en mourait d'envie. C'était bien pour se battre qu'il s'était fait spahi, et non pour aller languir à tonnes dans une petite maison blanche, sous les sortilèges d'une fille kassonké. Pauvre garçon qui buvait à la mémoire des morts, riez, chantez, soyez bien gai et bien fou, profitez de l'instant joyeux qui passe. Mais les chants et le bruit sonnent faux sur cette terre du Sénégal. Il doit y avoir encore là-bas dans le désert des places marquées pour quelques-uns de vous. N'Galam, qui comprendra tout ce que ces mots peuvent éveiller d'échos mystérieux au fond d'une âme nègre exilée? La première fois que Jean avait demandé à Fatou, il y avait bien longtemps de cela, c'était dans la maison de sa maîtresse. « D'où es-tu, toi, petite ?» Et Fatou avait répondu d'une voix émue. « Du pays de Galam ?» Pauvre nègre du Soudan, exilé, chassé du village natal par les grandes guerres ou les grandes famines, par toutes les grandes dévastations de ces contrées primitives. Vendu, emmené en esclavage. Quelquefois, ils ont parcouru à pied, sous le fouet du maître, des étendues de pays plus profondes que l'Europe entière. Mais au fond de leur cœur noir, l'image de la patrie est demeurée gravée, ineffaçable. C'est quelquefois la lointaine Tombouctou ou Ségou Koro, mirant dans le Niger ses grands palais de terre blanche, ou simplement un pauvre petit village de paille qui était perdu quelque part dans le désert, ou bien caché dans quelques plis ignorés des montagnes du sud, et dont le passage du conquérant a fait un tas de cendres et un charnier pour les vautours. N'Galam, mot répété avec recueillement et mystère. N'Galam, disait Fatou, Djien, un jour je t'emmènerai avec moi en Galam. Vieille terre sacrée de Galam, que Fatou retrouvait en fermant les yeux. Terre de Galam, pays de l'or et de l'ivoire. Pays où dans l'eau tiède dorment les caïmans gris à l'ombre des hauts palétuviers, où l'éléphant qui court dans les forêts profondes frappe lourdement le sol de son pied rapide. Jean en avait rêvé autrefois de ce pays de Galam. Fatou lui en avait fait des récits très extraordinaires qui avaient excité son imagination accessible au prestige du nouveau et de l'inconnu. À présent, c'était passé. Sa curiosité sur tout ce pays d'Afrique s'était émoussée et lassée. Il aimait mieux continuer à Saint-Louis, sa vie monotone, et être là tout près, pour ce moment bienheureux où il s'en retournerait dans ses Cévennes. Et puis, s'en aller là-bas, dans ce pays de Fatou, si loin de la mer, qui est encore une chose froide, d'où viennent des brises rafraîchissantes, qui surtout est la voie par où l'on communique avec le reste du monde. S'en aller dans ce pays de Galam, où l'air devrait être plus chaud et plus lourd, s'enfoncer dans ces étouffements de l'intérieur, non, il n'y tenait plus. Il eût refusé à présent si on lui proposait d'aller voir ce qui se passait en Galam. Il rêvait de son pays à lui, de ses montagnes, de ses fraîches rivières. Rien que de songer au pays de Fatou, cela lui donnait plus chaud et lui faisait mal à la tête. Fatou ne pouvait apercevoir un gabou, un hippopotame, sans courir les risques de tomber raide morte. C'était un sort, j'ai déjà dit sur sa famille, par un sorcier du pays de Galam. On avait essayé de tous les moyens pour le conjurer. Elle avait dans ses ascendants de nombreux exemples de personnes ainsi tombées raides au seul aspect de ces grosses bêtes, et ce maléfice les poursuivait sans merci depuis plusieurs générations. C'est du reste un genre de sort assez fréquent dans le Soudan. Certaines familles ne peuvent voir le lion, d'autres le lamantin, d'autres les plus malheureuses, celles-là, le caïman. Et c'est une affliction d'autant plus grande que les amulettes même n'y peuvent rien. On s'imagine les précautions auxquelles étaient astreints les ancêtres de Fatou dans le pays de Galam. Éviter de se promener dans la campagne aux heures que les hippopotames affectionnent, et surtout n'approcher jamais des grands marais d'herbage où ils aiment à prendre leurs ébats. Quant à Fatou, ayant appris que dans certaines maisons de Saint-Louis vivait un jeune hippopotame apprivoisé, elle faisait toujours un détour énorme pour ne pas passer dans ce quartier, de peur de succomber à une terrible démangeaison de curiosité qu'elle avait d'aller voir le visage de cette bête, dont elle se faisait faire tous les jours par ses amis des descriptions minutieuses. Curiosité, comme on le devine sans peine, qui tenait elle aussi du maléfice. Les jours s'écoulaient lentement dans leur monotonie chaude, tous se ressemblaient. Même service régulier au quartier d'Espaï, même soleil sur ses murs blancs, même silence alentour. Des bruits de guerre contre Boukagar Ségou, fils d'Elhadj, défrayant les conversations des hommes en veste rouge, mais n'aboutissant jamais. Aucun événement dans la ville morte, et les bruits d'Europe arrivant de loin comme éteints par la chaleur. Jean passait par différentes phases morales. Il avait des hauts et des bas. Le plus souvent, il n'éprouvait plus qu'un vague ennui, une lassitude de toute chose. Et puis, de temps à autre, le mal du pays, qui semblait endormi dans son cœur, le reprenait pour le faire souffrir. L'hivernage approchait. Les brisants de la côte s'étaient calmés. Il y avait déjà de ces journées où l'air manquait aux poitrines, où la mer chaude était molle et polie comme de l'huile, reflétant dans son miroir immense la puissante lumière torride. Jean aimait-il Fatou Gueye ? Ben, il n'en savait trop rien lui-même, le pauvre Spahi. Il la considérait du reste comme un être inférieur, l'égal à peu près de son laobé jaune. Il ne se donnait guère la peine de chercher à démêler ce qu'il pouvait bien y avoir au fond de cette petite âme noire, noire, noire comme son enveloppe de Kasonké. Elle était dissimulée et menteuse, la petite Fatou, avec une dose incroyable de malice et de perversité. Jean connaissait cela depuis longtemps. Mais il avait conscience aussi de ce dévouement de chien pour son maître, adoration de nègre pour son fétiche. et sans savoir positivement quel degré d'héroïsme ce sentiment était capable d'atteindre, il en était touché et attendri. Quelquefois, sa grande fierté se réveillait, sa dignité d'homme blanc se révoltait. La foi promise à sa fiancée et trahie pour une petite fille noire se dressait aussi devant sa conscience honnête. Il avait honte d'être si faible. Mais elle était devenue bien belle, Fatou Gaye. Quand elle marchait, souple et cambrée, avec ce balancement de hanches que les femmes africaines semblent avoir emprunté aux grands félins de leur pays, quand elle passait avec une draperie de blanche mousseline jetée en péplum sur sa poitrine et ses épaules rondes, elle était d'une perfection antique. Quand elle dormait, les bras relevés au-dessus de la tête, elle avait une grâce d'amphore. Sous cette haute coiffure d'ambre, sa figure fine et régulière prenait par instant quelque chose de la beauté mystérieuse d'une idole en ébène polie. Ses grands yeux d'émail bleu qui se fermaient à demi, son sourire noir découvrant lentement ses dents blanches, tout cela avait une grâce de nègre, un charme sensuel, une puissance de séduction matérielle, quelque chose d'indéfinissable, qui semblait tenir à la fois du singe, de la jeune vierge et de la tigresse, et faisait passer dans les veines du spahi des ivresses inconnues. Jean avait une sorte d'horreur superstitieuse pour toutes ces amulettes. Il y avait des instants où toute cette profusion de gris-gris le gênait, lui pesait à la fin. Il n'y croyait pas, assurément. Mais en voir partout de ces amulettes noires et savoir qu'elles avaient presque toutes pour vertu de le retenir et de l'enlacer, en voir à son plafond, à ses murailles, et en trouver de cachets sous ses nattes, sous son tara, de tapis partout avec des airs malfaisants et des formes bizarres de petites choses vieilles et ensorcelées, en s'éveillant le matin, en sentir de sournoisement glisser sur sa poitrine, il lui semblait qu'à la fin tout cela tissait autour de lui, dans l'air, des entraves invisibles et ténébreuses. Et puis, l'argent manquait aussi. Bien décidément, il se disait qu'il allait renvoyer Fatou. Il emploierait ces deux dernières années à gagner enfin ses galons dorés. Il enverrait chaque mois à ses vieux parents une petite somme pour leur rendre la vie plus douce. Et il pourrait encore faire des économies pour apporter les présents de noces à Jeanne Méry et subvenir lui-même convenablement aux dépenses de leur fête de mariage. Mais était-ce puissance d'amulette ou force de l'habitude ou inertie de sa volonté endormie par toutes les lourdeurs de l'air? Fatou continuait à le tenir sous sa petite main et il ne la chassait point. Sa fiancée, oh, il y songeait souvent. S'il eût fallu la perdre, il lui semblait que sa vie eût été brisée. Il avait comme un rayonnement autour de son souvenir. Il entourait d'une auréole cette grande jeune fille dont lui parlait sa mère, qui embellissait tous les jours, lui avait-on écrit. Il cherchait à se représenter sa figure de femme en développant les traits de l'enfant de 15 ans qu'il avait quitté. Il rapportait à elle tous ses projets d'avenir et de bonheur. Mais c'était une chose précieuse qu'il savait posséder là-bas, bien loin, bien en sûreté, l'attendant au foyer. Son image était déjà un peu affaiblie dans le passé, encore un peu lointaine dans l'avenir, et il la perdait de vue par instant. Et ses vieux parents, qu'il les aimait aussi, ceux-là. Il avait pour son père un amour filial bien profond, une vénération qui était presque un culte. Mais peut-être la place la plus tendre dans son cœur était-elle encore pour sa mère. Prenez les matelots, les spahis, tous ces abandonnés, tous ces jeunes hommes qui dépensent leur vie au loin, sur la grande mer ou dans les pays d'exil, au milieu des conditions d'existence les plus rudes et les plus anormales. Prenez les plus mauvaises têtes. Choisissez les plus insouciants, les plus débraillés, les plus tapageurs. Cherchez dans leur cœur, dans le recoin le plus sacré et le plus profond. Souvent dans ce sanctuaire, vous trouverez une vieille mère assise, une vieille paysanne de n'importe où, ou une basque en capulet de laine, ou une brave bonne femme de Bretonne en coiffe blanche. Pour la quatrième fois, l'hivernage est arrivé. Des journées accablantes, sans un souffle dans l'atmosphère. Le ciel, terne et plombé, se reflète dans une mer unie comme de l'huile, où s'ébattent de nombreuses familles de requins. Et tout le long de la côte d'Afrique, la ligne monotone des sables prend sous la réverbération du soleil une teinte éclatante de blancheur. Ce sont les jours des grands combats de poissons. Tout à coup, la surface molle et polie se ride, sans cause appréciable, sur une étendue de plusieurs centaines de mètres, s'émiette et grésille en petites gouttelettes tourmentées. C'est un banc immense de fuyards qui détale à fleur d'eau de toute la vitesse de ses millions de nageoires devant la voracité d'une troupe de requins. Ce sont aussi les jours aimés des piroguiers noirs, les jours choisis pour les traversées longues et les courses de vitesse. Dans ces journées où il semble que, pour nos organes européens, cet air lourd ne soit plus respirable, que la vie nous échappe, que le mouvement nous devienne impossible, dans ces jours-là, si vous dormez sur quelque bateau du fleuve à l'ombre d'une tente mouillée, souvent au milieu de votre pénible sommeil du midi, vous serez éveillé par les cris et les sifflements des rameurs, par un grand bruit d'eau qui fuit, battu fiévreusement à coups de pagaille. C'est une bande de pirogues qui passe, une joute furieuse sous un soleil de plomb. Et la population noire est là, debout, qui s'est éveillée et attroupée sur la plage. Les spectateurs excitent les concurrents par un grand vacarme, et là-bas, comme chez nous, les vainqueurs sont accueillis par des battements de mains et les vaincus par des huées. Jean ne paraissait au quartier d'Espaillie que le temps qu'exigeait strictement l'exécution de son service. Encore ses camarades le remplaçaient-ils souvent. Ses chefs ferment les yeux sur ses arrangements qui lui permettaient de passer dans son logis particulier presque toutes ses journées. Maintenant, tout le monde l'aimait. Le charme d'intelligence et d'honnêteté qui se dégageait de lui, le charme de son extérieur, de sa voix, de ses allures, avait exercé peu à peu sur tous son influence inconsciente. Jean avait fini, malgré tout, par conquérir la confiance et l'estime, par se créer une sorte de situation à part qui lui donnait presque l'indépendance et la liberté. Il avait trouvé le moyen d'être un soldat ponctuel et correct, tout en étant presque un homme libre. Un soir, il rentrait pour un appel de retraite. Le vieux quartier n'avait plus son aspect d'accablement habituel. Dans la cour, des groupes causaient bruyamment. Il y avait des spahis qui montaient ou descendaient les escaliers quatre à quatre, comme sous l'influence d'une joie folle. On devinait du nouveau dans l'air. « Grande nouvelle pour toi, Peyral !» lui cria Muller l'Alsacien. « Tu pars demain. Tu pars pour l'Alger, heureux garçon que tu es !» 12 spahis nouveaux étaient arrivés de France par le bateau de Dakar. 12 des plus anciens allaient partir, et Jean était du nombre, pour aller par faveur, finir en Algérie leur temps de service. On partait le lendemain soir pour Dakar. À Dakar, on prendrait le paquebot de France à destination de Bordeaux. De là, on rejoindrait Marseille par les lignes du Midi, avec des délais de route permettant de circuler, de faire une apparition au pays, pour ceux qui avaient un pays et un foyer. Puis à Marseille, on prendrait le paquebot d'Alger, ville de cocagne pour les spahis, et les dernières années de service passeraient comme un rêve. Jean s'en retournait chez lui, longeant les berges tristes du fleuve. La nuit étoilée tombait sur le Sénégal, chaude, lourde, étonnante de calme et de lumineuse transparence. De légers bruits de courant dans l'eau du fleuve, et assourdi dans le lointain, le tambour, l'anamalis phobile du printemps, qu'il entendait dans ce même lieu pour la quatrième fois, qui était mêlé au souvenir de ses premières voluptés énervantes du pays noir, et qui maintenant venait saluer son départ. Le croissant mince de la lune, les grosses étoiles qui scintillaient dans des vapeurs lumineuses, tout bas près de l'horizon plat, les feux allumés sur l'autre rive, dans le village nègre de Sors, tout cela traçant sur l'eau tiède de vagues traînées de lueurs, de la chaleur immobilisée dans l'air, de la chaleur couvant sous les eaux, des phosphorescences partout. La nature ayant l'air saturée de chaleur et de phosphore, un calme plein de mystère sur les bords du Sénégal, une tranquille mélancolie des choses. C'était bien vrai, cette grande nouvelle inattendue. Il avait été au renseignement, c'était exact, son nom était sur la liste de ceux qui allaient partir. Demain soir, il allait descendre ce fleuve pour ne revenir jamais. Ce soir, rien à faire pour ce départ. Au quartier, les bureaux étaient fermés, tout le monde était dehors. À demain, les préparatifs de voyage. Rien à faire ce soir qu'à songer, à rassembler ses idées, à se laisser aller à toutes sortes de rêves, à dire adieu à tout dans la terre d'exil. Il y avait dans sa tête un grand trouble de pensées et d'impressions incohérentes. Dans un mois, peut-être, faire une apparition rapide dans son village, embrasser en passant ses bien-aimés vieux parents, voir Jeanne changer en grande fille sérieuse, apercevoir tout cela en courant, comme dans un rêve. C'était là l'idée dominante qui revenait de minute en minute, lui donnant chaque fois au cœur une grande commotion qui le faisait battre plus vite. Pourtant, il n'était pas préparé à cette entrevue. Il y avait toutes sortes de réflexions pénibles qui venaient se mêler à cette grande joie inespérée. Quelle figure ferait-il, reparaissant au bout de 3 années, sans avoir seulement gagné ses modestes galons de sergent, sans rien apporter pour personne de son long voyage, dénué comme un pauvre air, n'ayant ni sou ni maille, sans avoir eu le temps seulement de se munir d'une tenue neuve et convenable pour faire son entrée au village? Non, vraiment, c'était trop précipité, ce départ. Cela le grisait, cela l'enivrait, mais pourtant on eût bien dû lui laisser devant lui quelques jours. Et puis, cette Algérie qu'il ne connaissait pas ne lui disait rien. Allez encore s'acclimater ailleurs. Puisque à toute force il fallait achever loin du foyer ces années retranchées de son existence, autant les finir ici même, au bord de ce grand fleuve triste, dont la tristesse maintenant lui était familière. Hélas, il aimait son Sénégal, le malheureux. Il s'en apercevait bien maintenant. Il était attaché par une foule de liens intimes et mystérieux. Il était comme fou de joie à l'idée de ce retour. Mais il tenait au pays de sable, à la maison de Samba Hamet, même à toute cette grande tristesse morne, même à ces excès de chaleur et de lumière. Il n'était pas préparé à s'en aller si vite. Des effluves de tout ce qui l'entoure se sont infiltrés peu à peu dans le sang de ses veines. Il se sent retenu, enlacé par toutes sortes de fils invisibles, d'entraves ténébreuses, d'amulettes noires. Les idées s'embrouillent à la fin dans sa tête troublée. La délivrance inattendue lui fait peur. Dans l'accablement de cette nuit chaude, qu'on sent pleine d'émanations d'orage, des influences étranges et mystérieuses sont en lutte autour de lui. On dirait les puissances du sommeil et de la mort se débattant contre celles du réveil et de la vie. C'est brusque, le départ militaire. Le lendemain soir, tout son bagage empaqueté à la hâte, tous ses papiers en règle, Jean est accoudé au bastingage d'un navire qui descend le fleuve. En fumant sa cigarette, il regarde Saint-Louis s'éloigner. Fatougueil est accroupi près de lui sur le pont. Avec tous ses pagnes, tous ses gris-gris, emballés à la hâte dans 4 grandes calebasses, elle a été prête à l'heure dite. Jean a dû payer son passage jusqu'à Dakar avec les derniers calices de sa solde. Il l'a fait de bon cœur, heureux de lui passer cette dernière fantaisie et aussi de la garder un peu plus longtemps auprès de lui. Les larmes qu'elle a versées, les cris de veuve qu'elle a poussés, suivant l'usage de son pays, tout cela était sincère et déchirant. Jean a été touché jusqu'au fond du cœur par ce désespoir. Il a oublié qu'elle était méchante, menteuse et noire. À mesure que son cœur s'ouvre à la joie du retour, il se prend pour Fatou de plus de pitié, même d'un peu de tendresse. Il l'emmène à Dakar, toujours, c'est du temps de gagner, pour réfléchir à ce qu'il pourra faire d'elle. Dakar, une sorte de vie coloniale ébauchée sur du sable et de roches rouges. Un point de relâche improvisé pour les paquebots à cette pointe occidentale de l'Afrique qui s'appelle le Cap Verde. De grands baobabs plantés çà et là sur des dunes désolées. Des nuées d'aigles pêcheurs et de vautours planant sur le pays. Fatougueil est là, provisoirement installée dans une case de mulâtre. Elle a déclaré qu'elle ne voulait plus revoir Saint-Louis. Là se bornent ses projets. Elle ne sait pas ce qu'elle va devenir, ni Jean non plus. Il a eu beau chercher, Jean, il n'a rien trouvé, rien imaginé pour elle. Et il n'a plus d'argent. C'est le matin. Le paquebot qui emportera l'Espaï doit partir dans quelques heures. Fatougueil est là, accroupi auprès de ses pauvres 4 calebasses qui contiennent sa fortune, ne disant plus rien, ne répondant même plus, les yeux fixes, immobilisé dans une sorte de désespoir morne et abruti, mais si réel et si profond qu'il fend le cœur. Et Jean est auprès d'elle, debout, tourmentant sa moustache et ne sachant que faire. La porte s'ouvre bruyamment tout à coup et un grand spahi entre comme le vent, ému, les yeux animés, l'air anxieux et bouleversé. C'est Pierre Boyer, qui a été pendant 2 années à Saint-Louis, le camarade de Jean, son voisin de chambrée. Oh, ils ne se parlaient guère, très renfermés qu'ils étaient tous deux, mais ils s'estimaient. Et quand Boyer est parti pour aller servir à Gorée, ils se sont serrés les mains cordialement. En ôtant son bonnet, Pierre Boyer murmure une excuse rapide pour être entré ainsi comme un fou. Et puis avec effusion, il prend les mains de Jean. « Oh, Peyral, dit-il, je te cherche depuis avant le jour. Écoute-moi un moment, causons. J'ai une grande chose à te demander. Écoute d'abord tout ce que je vais te dire et ne te presse pas pour me répondre. Tu vas en Algérie, toi. Demain, hélas, moi, je pars pour le poste de Gadiangué dans l'Ouankara avec quelques autres de Gorée. Il y a la guerre là-bas. 3 mois à y passer à peu près, et de l'avancement à gagner sans doute, ou la médaille. Nous avons le même temps à faire tous les deux, nous sommes du même âge. Cela changerait rien pour ton retour. Peyral, veux-tu permuter avec moi ? Jean avait déjà compris et tout deviné dès les premiers mots. Ses yeux s'ouvraient tout grands dans le vague, comme dilatés par la tourmente intérieure. Un flot tumultueux de pensées, d'indécisions, de contradictions lui montait déjà à la tête. Il songeait, les bras croisés, le front penché vers la terre. Et Fatou, ou qui comprenait elle aussi, s'était redressée haletante, attendant l'arrêt qui allait tomber de la bouche de Jean. Puis l'autre spahi continuait, parlant avec volubilité, comme pour ne pas permettre à Jean de prononcer ce nom qu'il tremblait d'entendre. Écoute, Perra, tu ferais une bonne affaire, je t'assure. Mais les autres, Boyer, leur as-tu demandé aux autres? Oui, ils m'ont refusé. Ben, je le savais, ils ont des raisons, eux. Mais tu feras une bonne affaire, vois-tu, Perrin. Le gouverneur de Gorée s'intéresse à moi. Il te promet sa protection si tu acceptes. Nous avions pensé à toi d'abord. Regarde en Fatou. Parce que tu aimes ce pays-ci, c'est connu. Au retour de Gandiyangué, on t'enverrait finir ton temps à Saint-Louis. C'est convenu avec le gouverneur. Cela se ferait, je te le jure. Mais nous n'aurons jamais le temps d'ailleurs, interrompit Jean, qui se sentait perdu et qui voulait tenter de se raccrocher à une impossibilité. Si, dit Pierre Boyer, avec déjà une lueur de joie. Nous aurons le temps, Perra, tout l'après-midi devant nous. Tu n'auras à t'occuper de rien, toi. Tout est arrangé avec le gouverneur, les papiers sont prêts. Ton consentement seulement, la signature là-dessus, et je repars pour Gorée. Je reviens dans 2 heures et tout est fait. Écoute, Peral, voici mes économies. 300 francs, ils sont à toi. Cela pourra toujours t'aider à ton retour à Saint-Louis pour t'installer et te servir à quelque chose, à ce que tu voudras. Oh, merci, répondit Jean. On ne me paie pas, moi. Il tourna la tête avec dédain. Et Boyer, qui comprit qu'il avait fait fausse route, lui prit la main en disant: Oh, ne te fâche pas, Peral. Et il garda la main de Jean dans la sienne. Et tous deux restèrent là, l'un devant l'autre, anxieux et ne parlant plus. Fatou, elle, avait compris qu'elle pouvait tout perdre en disant un mot. Seulement, elle s'était remise à genoux, récitant tout bas une prière noire, enlaçant de ses bras les jambes du spahi et se faisant traîner par lui. Et Jean, qui s'ennuyait d'étaler cette scène aux yeux de cet autre homme, lui disait rudement: « Allons, Fatou Gay, laisse-moi, je te prie, es-tu devenue folle maintenant? » Mais Pierre Boyer ne les trouvait pas ridicules, au contraire, il était ému. Et un rayon de soleil matinal, en glissant sur le sable jaune, entrait par l'ouverture de la porte, illuminant en rouge les vêtements des deux spahis, éclairant leurs jolies têtes énergiques, égarées de trouble et d'indécision, faisant briller les anneaux d'argent sur les bras souples de Fatou, qui se tordaient comme des couleuvres aux genoux de Jean, accusant la nudité triste de cette case africaine de bois et de chaume, où ces trois êtres jeunes et abandonnés allaient décider de leur destinée. Peral, continua tout bas l'autre spahi d'une voix douce, Peral, c'est que vois-tu, je suis algérien, moi. Tu sais ce que c'est? J'ai là-bas à Blida mes braves vieux parents qui m'attendent, ils n'ont plus que moi. Tu dois bien comprendre ce que c'est, toi, que de rentrer au pays. Eh bien oui, dit Jean, rechantant à l'arrière son bonnet rouge, en frappant du pied par terre. Allons, oui. J'accepte, je permute, je reste. Le spahi Boyer le serra dans ses bras et l'embrassa. Et Fatou, toujours roulé par terre, eut un cri de triomphe, puis se cacha la figure contre les genoux de Jean avec une espèce de râlement de fauve, terminé en éclats de rire nerveux et suivi par des sanglots. Il fallait se presser. Pierre Boyer partit comme il était venu, comme un fou, emportant à Gorée le précieux papier sur lequel le pauvre Jean avait mis sa grosse signature de soldat, bien correcte et bien lisible. À la dernière heure, tout se trouva régularisé, contresigné, paraphé, les bagages transbordés, la substitution opérée, tout cela bâclé si vite qu'à peine les deux spahis avaient eu le temps de penser. À 3 heures précises, le paquebot se mit en route emportant Pierre Boyer. Et Jean resta. Quand ce fut fini, irrévocable, et qu'il se trouva là, sur la plage de sable, voyant ce navire qui partait, il lui vint au cœur un désespoir fou. Une affreuse angoisse dans laquelle il y avait de la terreur de ce qu'il venait de faire, de la rage contre Fatougay, de l'horreur pour la présence de cette fille noire, et comme un besoin de la chasser loin de lui, et tout un immense et profond amour réveillé pour son foyer chéri, pour les êtres bien-aimés qu'il attendait là-bas et qu'il n'allait plus voir. Il lui semblait qu'il venait de signer une espèce de pacte à mort avec ce pays sombre et que c'était fini de lui. Et il partit en courant sur les dunes, sans trop savoir où il allait, pour respirer de l'air, pour être seul, pour suivre les yeux surtout, le plus longtemps possible, ce navire qui s'enfuyait. Le soleil était encore haut et brûlant quand il se mit en route, et ses plaines désertes en grande lumière avaient une saisissante majesté. Il marcha longtemps le long de la côte sauvage, sur la crête des dunes de sable, pour voir plus loin ou sur le haut des falaises rouges. Un grand vent passait sur sa tête et agitait à ses pieds toute l'immensité de cette mer où le navire fuyait toujours. Il ne sentait plus brûler le soleil, et tant sa tête était perdue. Rivé encore pour 2 années de plus à ce pays, quand il eût pu être là-bas, s'en allant sur la mer en route pour son cher village. Quelles influences ténébreuses, sortilèges, quelles amulettes l'avaient retenu là, mon Dieu ! 2 années, mais cela finirait-il jamais ? Y aurait-il réellement un terme, une délivrance à cet exil ? Et il courait vers le nord, dans la direction du navire, pour ne pas encore le perdre de vue. Il se déchirait aux plantes épineuses, et lui arrivait dans la poitrine comme une grêle de grandes sauterelles folles qu'il dérangeait en passant dans les hautes herbes de l'hivernage. Il était très loin, seul au milieu de cette âpre campagne du Cap-Verde, silencieuse et morne. Il voyait devant lui, depuis longtemps, un grand arbre isolé, plus grand même que les baobabs, avec un feuillage épais et sombre. Quelque chose de si immense qu'on eût dit d'un de ces géants de la flore de l'ancien monde, oublié là par les siècles. Il s'assit, épuisé, sur le sable, sous ce grand dôme d'ombre, et baissant la tête, il se mit à pleurer. Quand il se releva, le navire avait disparu et c'était le soir. Le soir, la tristesse plus calme et plus froide. À cette heure crépusculaire, le grand arbre était une masse absolument noire, se dressant au milieu de l'immense solitude africaine. Devant lui, au loin, les infinis tranquilles de la mer apaisée. En bas, à ses pieds, les falaises en terrasse jusqu'au grand Cap-Verde, des plans de terrain monotones, déchirés de ravines régulières, sans végétation, paysages profonds d'un aspect navrant. Par derrière, du côté de l'intérieur, à perte de vue, des plis mystérieux de collines basses, des silhouettes lointaines de baobabs, semblables à des silhouettes de madrépores. Plus un souffle dans l'épaisse atmosphère. Le soleil déjà éteint s'affaisse dans des vapeurs lourdes, son disque jaune étrangement grandi et déformé par le mirage. Partout, dans le sable, des daturas ouvrent au soir leurs grandes calices blancs. Ils alourdissent l'air d'un parfum malsain. L'air est chargé de senteurs malfaisantes de belladone. Les phalènes courent sur les fleurs empoisonnées. On entend partout dans les hautes herbes le rappel plaintif des tourterelles. Toute cette terre d'Afrique est couverte d'une vapeur de mort. L'horizon est déjà vague et sombre. Là-bas, derrière lui, c'est l'intérieur mystérieux qui le faisait rêver autrefois. À présent, il n'est plus rien jusqu'à Podor ou Médine, jusqu'à la terre de Galam ou jusqu'à la mystérieuse Tombouctou. Il n'est plus rien qu'il désire voir. Toutes ces tristesses, tous ces étouffements, il les connaît ou il les devine. Sa pensée est ailleurs maintenant et tout ce pays à la fin lui fait peur. Il ne désire plus que de se dégager de tous ses cauchemars, s'en aller, partir à tout prix. De grands bergers africains à tête farouche passent, chassant devant eux vers les villages leurs maigres troupeaux de bœufs bossus. Cette image du soleil, que la Bible eût appelée un signe du ciel, disparaît lentement comme une pâle météore. Voici la nuit. Tout s'assombrit dans la vapeur malsaine et le silence se fait profond. Sous le grand arbre, c'est comme un temple. Les gens songent à sa chaumière, à cette heure des soirs d'été, et à sa vieille mère et à sa fiancée, et il lui semble que tout est fini. Il rêve qu'il est mort et qu'il ne les reverra plus.